Bonsoir et bon début de semaine à tous. Situation sécuritaire en Ituri. 11 personnes, dont 4 militaires et 3 policiers, ont été tués samedi dernier à Matete, dans le territoire de Djougou. Parmi les victimes se trouve aussi l'administrateur du territoire assistant de Djougou, chargé de l'économie et finances. D'après l'administrateur du territoire de Djougou, qui confirme l'information, cet incident est survenu lors d'une embuscade tendue par les assaillants de la Codeco. Les casques bleus marocains de la MONUSCO se sont déployés rapidement sur les lieux aux côtés des FARDC pour rétablir la situation. Comment expliquer cette nouvelle attaque de la milice Codeco? Pourquoi la situation sécuritaire en Ituri ne s'améliore-t-elle pas après toutes les initiatives prises pour le retour de la paix? C'est notre thème de ce soir et pour en parler, je reçois dans cette émission pour les débats Janvier Egoudra, il est ministre provincial du commerce, de l'entrepreneuriat et artisanat. Il est aussi porte-parole du gouvernement provincial de l'Ituri. Monsieur Egoudra, bonsoir.
Bonsoir madame.
Jackson, merci. Jackson Aoussé, député national élu d'Irumu et cadre du parti politique Ensemble pour la République, membre de la coalition Lamouka. Jackson Aoussé, bonsoir.
Bonsoir madame Kelly, bonsoir et bonsoir à mes co-débatteurs.
Didier Bitaki, ancien membre des groupes armés au Kivu, il est expert en désarmement et en droit international humanitaire. Didier Bitaki, bonsoir.
Bonsoir madame Kelly, je salue également tous mes co-débatteurs.
Vous êtes nombreux auditeurs des radios Kapi à nous envoyer vos réactions. C'est le cas de Apamato Christian depuis Kinshasa. Le président de la République doit absolument penser à l'application immédiate des recommandations de l'Assemblée nationale sur l'examen du rapport d'audition du ministre de la Défense nationale et ancien combattant sur la situation sécuritaire dans la partie est de la RDC. Désiré Sakodi Paoni depuis Lubumbashi. À mon avis, cette attaque vient de démontrer la capacité des nuisances très élevées de ce groupe armé, mais jusqu'à cela négligé par le gouvernement de notre pays. C'est aussi un acte de sabotage de la part de ce groupe armé vis-à-vis du gouvernement et de l'armée. Aussi, la situation sécuritaire ne s'améliore pas en Ituri, tout simplement parce que le gouvernement n'arrive toujours pas à honorer ses engagements pris vis-à-vis des différents groupes armés qui pullulent dans notre pays. Merci de nous suivre à Bounia, dans la province de l'Ituri, sous la 104.9. Et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radiocapi.net. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Radio Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Plusieurs personnes sont mortes lors d'une embuscade tendue par les miliciens de la Codeco samedi dernier à Matete. C'est non loin de la localité de Pizzo, dans le territoire de Djougou, sur la route nationale numéro 27. Parmi les victimes, on compte 4 militaires, 3 policiers et l'administrateur du territoire assistant de Djougou, chargé de l'économie et finances, Kizamateso. D'autres personnes ont été grièvement blessées. Les points avec vous, Martial Kizabiamongo.
Les deux véhicules à provenance de Bounia sont tombés dans une embuscade des assaillants de la Codeco vers 11h locale à 10 km de Jida avant d'arriver à Pizzo dans les territoires de Djougou. Selon l'administrateur du territoire, ces rebelles ont tiré en rafale sur les convois escortés par des militaires et policiers. Sur le champ, 11 personnes sont mortes. Parmi elles, 4 militaires et 3 policiers. À bord de ces véhicules s'est trouvé l'administrateur du territoire assistant de Djougou, chargé de l'économie et finances, Kizamateso. Il figure parmi les victimes. D'autres personnes ont été grièvement blessées. Alertés, les casques bleus marocains de la MONUSCO se sont rendus rapidement sur les lieux d'attaque pour appuyer les militaires de FARDC venus de Pimbo. Selon des sources locales, la présence de ces soldats de la paix a fait fuir les assaillants, empêchant ainsi une nouvelle attaque de ces miliciens qui avaient déjà réussi à faire renverser les deux véhicules à bord desquels s'est trouvé des victimes. Pour le moment, la circulation est perturbée sur la route nationale numéro 27. Bounia, Martial Kizabiamongo, Radio Okapi.
Martial Kizabiamongo, merci pour ce reportage. Janvier Goudra, je rappelle que vous êtes ministre provincial du commerce, de l'entrepreneuriat et artisanat. Vous êtes le porte-parole du gouvernement provincial de l'Ituri. Comment vous expliquez cette nouvelle attaque de la milice Codeco?
Merci beaucoup, madame. Je voudrais rectifier légèrement. Je suis ministre provincial à charge de l'économie, finances, commerce, entrepreneuriat et artisanat. Nous voulons, au nom d'abord du gouvernement provincial et au nom de son Excellence aussi le gouverneur de province, honorable Jean Bamani Sassaïdi, présenter et réitérer encore nos condoléances aux familles de tous nos compatriotes qui sont tombés sur cette attaque barbare qui a eu lieu le 4 juillet sur la route nationale numéro 26, sur les tronçons compris entre la localité de Gina et de Pizzo, précisément à Matete. Cette attaque, madame, va être considérée comme l'une des réactions terroristes de ces groupes à débandade. Vous savez, depuis quelques mois, notre armée républicaine est en train de mener des actions de grande envergure dans la zone et les conséquences de cet assaut de notre armée a fait que ces assaillants, ces éléments de la milice Codeco se sont dispersés. Et du coup, nous nous retrouvons en face d'une guerre asymétrique. Vous voyez, c'est comme un petit morceau de pierre qui est jeté dans une ruche d'abeilles et ils se sont dispersés. Et voilà le contexte dans lequel aujourd'hui le territoire de Djougou, une partie des Mahagi, vit dans lequel. Et l'attaque de samedi doit être située dans ce contexte d'une série d'attaques asymétriques où l'armée est en train de mener des actions avec une programmation très bien ciblée. Mais entre-temps, les assaillants, pour autant, qui sont en train d'être soumis à une représentation digne de son nom, à une puissance de feu, et ils ont pris des directions multiples. Et maintenant, ils commencent à organiser des attaques isolées. Et voilà l'exemple qui est arrivé le week-end passé, ce que nous déplorons. Et le gouvernement provincial continue dans sa mission, parce que vous savez, depuis le mois de juin de l'année passée, depuis la résurgence de l'insécurité, le gouvernement provincial a mis en place un système mixte entre le dialogue, entre les rapprochements communautaires, mais aussi l'approche militaire. Et le gouvernement provincial continue à porter son soutien aux forces armées de la République pour que finalement ces hors-la-loi finissent par se rendre. Parce qu'il n'y a plus deux options maintenant. Nous sommes dans une option de la reddition. Et la force doit revenir à la loi, le contrôle du territoire national, le contrôle de toute la province de l'Ituri doit revenir aux forces armées de la République. On annonce cet acte, mais tout en réitérant à l'armée le soutien et l'accompagnement du gouvernement provincial pour que finalement nous puissions mettre fin à ces genres de barbaries qui n'ont que trop duré dans la province.
Ces miliciens Codeco ont été dispersés. Ils ont pris plusieurs directions, comme vous l'avez dit, monsieur le porte-parole du gouvernement provincial de l'Ituri. Est-ce qu'on peut dire que la capacité de nuisance de ce groupe n'est pas à négliger, bien qu'il soit dispersé dans la forêt, mais continue quand même à faire des dégâts?
Bien entendu, parce que vous imaginez, lorsque vous êtes en face d'une troupe de 100, 200, 500 personnes que vous arrivez à disperser, parmi lesquelles on peut décompter par exemple autour de 10 morts. Vous imaginez que des différentes factions se sont retranchées comme ça un peu partout et effectivement ils ont une capacité de nuisance qu'il ne faut pas négliger parce que nous sommes dans une situation de guerre, mais nous restons tout autant positifs et optimistes, croyant à notre armée qui est en train de déployer toute l'intelligence militaire pour arriver finalement à circonscrire les espaces qui doivent bénéficier d'une attention la plus soutenue, afin que finalement ces hors-la-loi puissent subir la puissance du feu et puissent déposer les armes et se rendre à l'armée.
Est-ce qu'on connaît leurs revendications, monsieur le porte-parole?
Écoutez, jusque maintenant, le gouvernement provincial, dans son rôle, vous savez, nous sommes le prolongement du pouvoir central au niveau de la province, nous avons, dans la démarche du dialogue, mis en place des cadres d'échange pour arriver à identifier le problème qui justifie ces comportements inciviques, qui est un comportement animalisant, qui consiste tout simplement à donner la mort sans présenter à contrepartie un cahier de charges clair. Le gouvernement provincial, jusqu'au moment où je vous parle, ne détient pas un document quelconque qui contiendrait un quelconque cahier de charges. Donc, nous listons ce genre d'attitude dans le cadre des activités terroristes, tout simplement, parce que ce qui est le fondement de l'action, c'est juste nuire et faire du mal à toute la communauté ivoirienne.
On se souvient, il y a quelques temps, le chef de l'État avait organisé une rencontre avec les anciens chefs rebelles de l'Ituri pour aller sensibiliser les groupes armés encore actifs, notamment Codeco. Qu'est-ce que cela a donné comme résultat? Est-ce que les pourparlers avec les différents groupes armés ont commencé?
Effectivement, le président de la République a mis toute l'intelligence diplomatique pour essayer de mélanger la force et le dialogue, afin d'amener ces hors-la-loi à la conscience et au patriotisme. D'ailleurs, le week-end, nous avons reçu cette délégation de Kinshasa, les généraux ainsi que certains émissaires qui sont venus justement dans le cadre de ces processus de paix. Mais pendant que la délégation de Kinshasa est arrivée, voilà, le même week-end, nous avons tout suivi avec beaucoup de regrets ce qui s'est passé. Mais nous restons optimistes et l'équipe est en train de travailler avec le comité provincial de sécurité dans le cadre du centre de coordination des opérations. Et nous sommes plus que sûrs qu'avec la détermination de tous et surtout avec l'implication de la population. Vous savez, les éléments de la CODECO, ils vivent parmi la population. Le rôle important est à jouer également par cette population qui doit dénoncer, qui doit se désolidariser pour que l'armée puisse avoir la raison de cibler et de mener des actions beaucoup plus techniques afin que tous ceux qui œuvrent du côté du désordre puissent être neutralisé et que la paix puisse être restaurée sur l'ensemble de notre province.
Jean-Pierre Goudra vous garde encore dans cette émission. Le temps pour nous de passer la parole à Jackson Aoussé, qui est député national, élu d'Irumu et cadre du Parti politique Ensemble pour la République, membre de la coalition Lamuka. Jackson Aoussé, quelle lecture vous faites de cette nouvelle attaque de la milice Codeco?
Madame, la situation sécuritaire de la province de l'Ituri est grave. Moi, je ne pense pas que nous devons maintenant aller par les dos de la cuillère. Il va falloir que nous puissions présenter la situation comme ça se présente. Nous déplorons, nous regrettons ces morts. 11 personnes tuées cruellement. Madame, je vous informe qu'en Djougou, aujourd'hui, il y a eu des morts. Aujourd'hui, à part les 11. Donc, en Ituri, tout entier, il n'y a pas un jour sans perte à vie humaine. Pas un seul jour. Madame, je suis par téléphone, je suis à l'Est, je suis à Bounia, je sais ce que je dis. Pas un seul jour sans qu'une personne puisse mourir.
Qu'est-ce qui explique cette situation?
Vous dites?
Qu'est-ce qui explique cette situation?
Ce qui explique cette situation, c'est la présence, je dirais même de la présence massive, n'est-ce pas, des groupes de personnes détenant les armes illégalement. Dans chaque territoire de la province de l'Ituri, parce qu'il n'y en a que 5, dans chaque territoire, vous allez trouver aujourd'hui, il y a 2, 3, 4 groupes armés qui mènent leurs désactions sur la population. Donc, cette situation est très grave. Comme je voulais vous dire, avant que vous me posiez la question, le bilan de l'insécurité de l'Est est 3 fois supérieur du bilan du coronavirus dans notre pays. Ah donc, autant que la situation épidémiologique du pays est en train de nous préoccuper, 2 fois plus la situation sécuritaire doit aussi nous préoccuper parce que c'est très très grave. Nous sommes mal habitués, madame. Nous sommes mal habitués, notre mauvaise habitude c'est que nous banalisons les morts. Chez nous, nous sommes là, vous voyez aujourd'hui notre position. Nous, au niveau central, au niveau du gouvernement central, parce que c'est à lui vient le premier la responsabilité. Nous sommes en train de suivre l'ennemi dans sa manière de faire les choses. Nous sommes venus des potables et des morts. Nous ne sommes pas en train d'anticiper les événements. Madame, j'étais ici. Il y a eu trop de désactions dans les territoires d'Irum et de Mambasa. J'ai écrit une lettre au ministre de la Défense. J'ai demandé dans ma lettre ouverte qu'on puisse évaluer les opérations militaires qui se mènent dans la province de l'Ituri pour qu'on arrive à dégager les forces et les faiblesses de ces opérations afin qu'on puisse rectifier les tirs. Parce que, madame, la réponse pour les problèmes sécuritaires de l'Ituri reste militaire et communautaire. Et la réponse militaire, elle est là. La province de l'Ituri est une zone opérationnelle. Et par conséquent, des militaires qui sont en opération. Mais malheureusement, nous voyons la cohabitation des opérations militaires avec la mauvaise des actions sur la population. C'est pour cette raison que nous disons il faut qu'on évalue. Nous avons des militaires. Nous avons des militaires capables, n'est-ce pas, de faire beaucoup de choses. Mais il faut qu'on puisse évaluer les cadres dans lesquels ils sont en train de mener ces opérations. Ça, je l'ai écrit au ministre de la Défense. Et je dis, l'autre solution, c'est aussi communautaire. L'Ituri mérite une conférence. Il faut qu'on convoque une conférence de la paix à l'Ituri et toutes les communautés ituriennes s'assoient pour qu'ils discutent sur ce qui se passe à l'Ituri. Parce que maintenant, là...
Votre ligne est en train de se détériorer, Jackson Aoussé. Voilà.
Allô, madame.
On vous écoute.
Allô? Oui, oui. Le gouvernement provincial est aujourd'hui dépassé de portée. Parce que tout revient presque au gouvernement provincial d'intervenir ici. Un gouvernement provincial sans frais de fonctionnement pendant 8 mois. Le gouvernement central n'envoie pas le frais de fonctionnement aux provinces, notamment Ituri, il y a 8 mois. Qu'est-ce que vous pouvez attendre qu'un gouvernement comme ça puisse pouvoir faire dans une situation de sécurité comme ça?
Alors vous parlez, tout à l'heure, vous avez parlé des présences massives des groupes, des gens qui détiennent les armes illégalement. Est-ce que ces personnes sont identifiées, bien identifiées?
Madame, on nous parle des CODECO, on nous parle des EDF Nalu, on nous parle des Mai Mai, ainsi de suite. On nous parle même des Aïrois. Il y a un groupe qui vient de se créer, qu'on les appelle des Aïrois. Donc, sur le plan militaire, la réponse, elle est là, mais cette réponse mérite un examen. Il faut qu'on examine pourquoi chez nous, pourquoi dans notre pays, les gens ne veulent pas évaluer les processus. Quand il y a quelque chose qui est planifié, il y a toujours une évaluation mi-parcours de quelque chose. Donc, il faut qu'on évalue l'opération militaire de l'Ituri. Il faut qu'on convoque au niveau communautaire, il faut convoquer une table ronde ou une conférence. On l'a fait pour qui vous. À un problème généralisé, il faut une solution globale. Et la situation de l'Ituri demande une solution militaire qui est globale et une approche communautaire qui est aussi globale.
On a suivi le porte-parole du gouvernement provincial, Janvier Goudra, qui a salué la capacité des feux des FRDC qui est arrivé à mettre en débandade, en déroute, ces miliciens CODECO. Mais également, il dénonce le fait que ces miliciens vivent avec la population. Vous, en tant que député national, quelle action vous menez auprès de la population pour qu'elle puisse se désolidariser de ces miliciens?
Moi, madame, c'est une très bonne question. Moi, madame, et mes collègues qui sont ici, qui sont confinés à Ituri, nous sommes chaque jour sur terrain. Notre vie est même à risque. Les 30 juin passés ici, les fêtes de l'indépendance, nous l'avions passé avec la population. On n'a pas fêté, on était avec la population, n'est-ce pas, dans le village de Kunda, on sensibilisait la population. Nous demandons à la population deux choses. Un, de dénoncer l'ennemi. Deux, de se désolidariser de l'ennemi. Il n'y a que les deux messages que nous sommes en train de passer à la population. À travers les radios, à travers des contacts directs, nous les faisons. Mais nous devons appuyer, nous devons renforcer le levier militaire de la solution et le levier communautaire beaucoup plus global.
Didier Bitaki, ancien membre des groupes armés au Kivu, vous êtes actuellement expert en désarmement et en droit international humanitaire. On vous a eu plusieurs fois dans Dialogue entre Congolais pour parler de la question de l'Ituri. Encore une fois ce soir, on revient sur cette question. Comment vous analysez-vous cette situation? Pourquoi ces miliciens qui sont dans la province de l'Ituri restent toujours actifs, selon vous?
Merci madame. Je crois, vous l'avez si bien dit, que encore une fois nous débattons de cette question de l'Ituri. Je ne sais pas si vous me donnerez le temps comme vous l'avez fait pour les autres. Parce que là, il faut que la question soit claire.
Nous avons un chrono, Didier Bitaki.
Oui, mais à ce niveau ici, le dossier se pose d'une autre manière. Quand nous avons discuté sur cette question avec le vice-gouverneur sur l'activisme des CODECO, la naissance de notre groupe que le gouverneur avait dénoncé et que le vice-gouverneur lui avait contredit, voilà encore un autre groupe et un autre qui s'ajoute sur ce qui existait déjà. Alors, c'est une inquiétude quasi permanente. C'est un cycle infernal, les gens tournent autour d'eux-mêmes. on propose la même chose pour le même résultat chaque jour. Même le député, quand il parle là, il parle en évoquant les mêmes solutions qu'il proposait en termes de remèdes auparavant, mais qui reviennent toujours à poser le même problème et le même résultat ressort. Je condamne le propos du ministre provincial. Il faut que le ministre provincial se comporte comme quelqu'un qui représente un certain intérêt du peuple. Il ne doit pas parler ou réagir comme s'il était porte-parole de l'armée. Il ne doit pas présenter des bilans de l'armée. Il ne doit pas vanter des prouesses d'une armée qui n'a pas su répondre à sa mission et qu'il dise, voilà, l'armée a dispersé, ainsi de suite. L'armée aura dispersé depuis le début de ces opérations-ci. Il n'y a que le samedi que l'armée vient de disperser les gens pour arriver à aujourd'hui, lundi. Maintenant, l'armée a réussi à démanteler la CODECO. Or, la CODECO vient de tuer encore le député provincial du Conseil national. Il le confirme. Ce n'est pas ça le comportement d'une autorité. Je le condamne fermement et je me dis, si ça continuera comme ça, c'est-à-dire notre pays doit attendre encore 60 ans pour qu'il retrouve des acteurs politiques, des leaders qui puissent parler réellement aux besoins, à l'intérêt du peuple et qui racontent effectivement ce que le peuple exige pour se retrouver et pour mieux vivre. Le problème de l'Ituri aujourd'hui, nous avons parlé de cela autant de fois, c'est un problème de politique de défense nationale, de défense générale. Vous ne pouvez pas particulariser la question de l'Ituri par rapport à ce qui se passe au Nord Kivu, à ce qui se passe à Haute-Uele, à ce qui se passe dans les Tanganyika, à ce qui se passe au Sud Kivu, à ce qui se passe y compris à Kinshasa où nous sommes. C'est une question de politique générale de défense. Je regrette que le ministre de la Défense ne soit pas échappé à votre invitation, sinon j'allais parler en face de lui, parce que la question ne concerne pas seulement l'Ituri, sinon on aura eu une province d'Ituri particulière, donc qui serait comme si c'était un État à part. Le problème de la défense de la RDC repose sur l'organisation de la politique de la défense de la République. Quand vous voulez défendre une République, vous ne pouvez pas dire je déploie une opération distincte dans tel coin, parce que la mission est telle, mais sans définir l'objet, sans définir la finalité, les résultats auxquels on s'attend, c'est lesquels. Vous dites l'objectif c'est tel, mais quel est le résultat? Alors si vous prenez le militaire, vous les laissez dans cet objectif, ils vont continuer jusqu'à se fatiguer. Vous ne connaissez pas le nombre de morts parmi les forces armées, vous ne connaissez pas le nombre de blessés parmi les forces armées, vous ne connaissez pas comment est-ce qu'il faut les remplacer pour les recycler, afin que ceux qui ont opéré puissent retourner et encore une fois se rafraîchir avant de réintégrer l'opération. Mais vous maintenez cette opération pendant plus de 10 ans, les mêmes troupes, les mêmes commandants, les mêmes officiers, ainsi de suite. Vous voulez aboutir à quoi? Le problème dans ce pays est que, je pense, et le président de la République, je crois qu'il est en train d'écouter cette émission, au moment où nous parlons, il doit, ensemble avec les structures appropriées, y compris les experts, et notamment nous-mêmes, on ne demande pas des services, mais nous voulons aider la nation, donner des pistes et des solutions précises sur le plan de la défense pour sauver et l'Est du pays et la République tout entière. L'enseignement ne fonctionne pas.
Le président de la République a rencontré des experts sur les questions sécuritaires pour essayer de trouver une solution concernant la partie Est du pays.
Ce recrutement des experts est sélectif et je dirais clientèle. C'est-à-dire, ce recrutement n'est basé sur aucun principe d'efficacité et de connaissance du domaine. Je vais vous poser la question. Madame, quand on discutait sur l'insécurité à Ituri, il n'y avait pas encore une question de troupes du Sud-Soudan. Mais comment est-ce que ces experts n'ont pas pu découvrir qu'au niveau des frontières avec le Sud-Soudan, il y a déjà tentative de pénétration des troupes de l'armée soudanaise vers l'intérieur du territoire congolais? Ça n'a jamais été dénoncé. Mais aujourd'hui, ils sont là. Quand vous prenez les cas du Haut-Uele, c'est la même chose. Vous allez au Nord Kivu, le Rwanda est là, et l'Ouganda intervient au niveau des frontières, mais les ADF sont là. Vous allez au Sud Kivu, les Burundais sont là, et les Rwandais. Mais vous voulez qu'on parle de cela combien de fois? Au niveau du Tanganyika, les Zambiers sont là. Mais qu'est-ce qu'on en dit aujourd'hui? Ces experts que le chef Haï a appelé à ses côtés, l'aide à faire quoi? C'est une question d'intérêt national, la protection de la population civile et du territoire et de l'intégrité du territoire relève de la politique générale du gouvernement.
Les auditeurs sont très très nombreux à réagir au thème de ce soir. On va prendre pour vous, monsieur le porte-parole du gouvernement provincial de l'Ituri, cette réaction qui nous vient de Bounia.
Ingénieur Patrick Vallée, depuis la ville de Bounia. Massacre des administrateurs des territoires qui sont le représentant du chef de l'État dans les territoires. Il s'agit de l'attaque contre le chef de l'État lui-même. Non seulement l'attaque contre le chef de l'État, mais aussi une grande menace contre les territoires nationaux qui est en danger avec le nombre important déjà tués sauvagement en Ituri et particulièrement en Djougou, Mahagui et Mambasa. Notre unique armée doit passer aux actions de très grande envergure dans le vrai sens pour sauver les territoires nationaux et sa population. La justice doit faire le vrai enquête pour punir les auteurs de ces actions, car c'est à répétition que ces Kodeko tuent les gens sauvagement dans ces coins du pays.
Monsieur le porte-parole du gouvernement provincial, comment vous réagissez à ce point de vue de Patrick Rouvalet depuis Bounia?
Merci beaucoup. Je salue cette intervention du compatriote Patrick qui est en train de faire une lecture effectivement objective de cette situation de l'Ituri. Je voudrais revenir un tout petit peu en arrière avant d'aller sur la préoccupation de mon compatriote Patrick. Monsieur Didier Bitaki, je voudrais ici rappeler que je l'ai dit et je vais encore le dire, que le gouvernement provincial, nous sommes un prolongement du pouvoir central au niveau de la province. Et à ce titre, nous avons la responsabilité. Il est vrai, ce n'est pas à M. Didier Bitaki d'apprendre ça aujourd'hui à l'opinion, que les questions de la sûreté nationale, les questions de la défense, les questions de l'intangibilité des frontières de notre pays sont des matières de la compétence du pouvoir. Il est vrai, lorsque vous voyez les tableaux de la province de l'Ituri aujourd'hui, nous sommes en situation d'inquiétude généralisée. Quand vous allez vers le nord, nous avons les incursions des éléments de la SPLA. Vers le sud, vous avez les groupes FPIC, Kinyakilima, etc. Vous avez dans le territoire de Mambasa, les Maïmaï, les Adef Nalu, dans les Djougou, Mahagui, nous avons Kodeko. Tout cela, ce sont des questions qui ne doivent pas être traités en toute légèreté, comme si on était dans un environnement des humanitaires. Nous sommes un gouvernement, nous sommes en train de vivre avec la population cette situation désastreuse de l'insécurité, mais au même moment, nous vivons également avec cette armée, ne pas reconnaître les efforts qui sont en train d'être fournis par notre armée. En tout cas, je ne sais pas comment les qualifier, mais je pense qu'il s'agit tout simplement d'une irresponsabilité. Parce que le gouvernement de la République a effectivement cette mission d'intensifier les actions militaires en mettant toute la logistique nécessaire et toute la diplomatie s'il le faut pour que l'armée puisse mettre fin à cette situation. Mais la réalité dans laquelle nous sommes, nous ne devons que soutenir et encourager tous les efforts qui sont en train d'être déployés sur le terrain.
Mais pourquoi la situation sécuritaire ne s'améliore-t-elle pas?
Le problème de l'Ituri, je le répète, sont en face d'une guerre asymétrique. Nous ne savons pas par quel côté l'ennemi se cache, d'où vient le coup de machette, et il faut beaucoup d'intelligence pour essayer de circonscrire les cadres de l'insécurité en province de l'Ituri. C'est pourquoi, au-delà des efforts militaires que je salue et continuerai à saluer, parce que notre armée, nuit et jour, se bat pour arriver à nous donner la paix. Mais au-delà des efforts militaires, le gouvernement provincial, le gouvernement des provinces a lancé depuis le mois de juillet de l'année passée, parce que la recrudescence de ce cycle de violence a resté sur place depuis le mois de juin, à partir de l'assassinat des commerçants de Kobo. Dès lors, le gouverneur des provinces, avec tout son gouvernement, a mis en place un mécanisme de dialogue pour essayer de rapprocher les esprits, mettre la population dans une patte qui puisse faire matière les de la communion et de vivre ensemble. Mais il se fait aujourd'hui qu'en dehors de tout ce que l'armée est en train de déployer comme effort, l'ennemi vit au milieu de la population. C'est pourquoi les efforts sont en train d'être déployés, autant par les députés nationaux qui comprennent les soucis de sauver la province, autant par les gouvernements provinciaux, dans le sens d'amener la population à dénoncer l'ennemi, à se désolidariser de tous ceux qui ne jugent
par les sangs à l'étouré.
Merci.
Et nous sommes convaincus que c'est dans cette approche-là que nous allons faire un bloc autour de notre armée et autour de nos forces de sécurité pour que l'étouré puisse retrouver sa paix. Mais il est hors de question d'encourager la démotivation de l'armée qui est en train de faire son travail correctement. Nous regrettons le monde et nous tenir notre armée qui doit être professionnelle jusqu'à restaurer la paix sur toute l'étendue de la province de l'Ituri.
Jackson Aoussé, on va prendre aussi pour vous cette autre réaction qui nous vient de Beni dans la province du Nord Kivu.
Barouani a niqué de Beni dans la province du Nord Kivu. La persistance de l'insécurité à l'est du pays est une émanation d'une mauvaise volonté des autorités d'en finir une fois pour toutes, comme qui dirait un arbre qui cache la forêt. Comment expliquer qu'une milice qui s'organise dans un délai record se procure des armes de toutes les qualités sans une main noire? À mon avis, l'importance est de dénicher tous les complices pour en faire résonner et éradiquer tous ces groupes mafieux un par un.
Il faut arriver à dénicher tous les complices, Jackson Aoussé. C'est ce que pense cet auditeur qui nous appelle depuis Beni, au Nord Kivu.
Cet auditeur qui a chargé, n'est-ce pas, la volonté politique comme étant responsable de ce qui se passe à l'est de la République générale. Moi, j'ai aimé, n'est-ce pas, l'analyse de notre expert. Il a bien fait l'analyse, mais c'est une analyse fondamentale. Cette situation...
On a un souci avec votre ligne téléphonique. Essayez de bouger ou de vous déplacer pour voir comment la ligne pourrait s'améliorer.
J'ai une analyse de l'expert qui est sur mon côté. Ça doit passer par là, parce que ça doit passer par une politique générale du Parlement en matière de sécurité. Tout doit partir par là, et ça doit passer par le Parlement. C'est très logique, ce n'est pas à contester. Mais la situation telle qu'elle se présente chez nous, en Ituri présentement, demande une réponse d'urgence. La réponse d'urgence, parce qu'il y a des morts, madame. On ne peut pas rester dans des bureaux en train de réfléchir sur la politique générale de la sécurité à partir du moment où le gens est. Nous devons faire tout pour arrêter à premier lieu, n'est-ce pas, l'atrocité sur la population. C'est pour cette raison que je demande qu'ils puissent procéder par l'évaluation. Aujourd'hui, je ne serai pas philosophique. Je ne serai pas philosophe, je ne serai pas faire les analyses des choses. Moi, je voulais passer une journée, une nuit, sans que je sois tué. Mon objectif, il est simple. Qu'on passe une seule nuit, un seul jour, c'est-à-dire sans qu'il y ait une personne tuée. Et par conséquent, on doit passer par une réponse militaire. C'est-à-dire de voir et prendre l'effectif qu'on a mis pour... L'opération de l'Ituri est suffisante. Est-ce que la logistique mise à sa disposition est suffisante? Est-ce que le moyen pour la survie des militaires est bien cadré? On doit se poser toutes ces questions un seul, deux seuls jours. Trois jours suffira pour passer ces analyses, pour qu'on rectifie que les gens ne puissent pas mourir par le fait de l'insécurité. Laisse l'approche communautaire, l'aspect communautaire. On organise les dialogues dans cinq territoires de l'Ituri. Parce que les contextes sont presque différents. Ce qui se passe en Djibouti, ce n'est pas nécessairement ce qui se passe à Massa, mais ce qui le lie, c'est seulement la stabilité ou les personnes. Mais les démarches, le mode opératoire sont parfois différents. C'est pour cette raison que j'étais avec le gouverneur, je lui ai proposé, il a même accédé à ma demande, qu'on réunisse, qu'on fasse les dialogues chaque territoire, qu'on réunisse les chefs coutumiers, les opérateurs de la société civile, le représentant des chaînes, chaque territoire pour qu'on puisse voir un peu l'aspect communautaire, l'articulation communautaire de ces insécurités, n'est-ce pas, dans notre province.
Mais l'aspect
militaire, je t'appelle, ce n'est secret pour personne, le gouvernement provincial, il n'a pas les moyens, huit mois, les députés provinciaux...
Vous l'avez déjà dit, Jackson Aoussé, merci, on vous garde encore en ligne, on va prendre pour Didier Biteki cette autre réaction.
Magene Kakumbu Jules, activiste du mouvement citoyen Rien sans le peuple à Bukavu. Les négociations avec ces groupes armés ont montré ses limites. Il serait mieux de bien privilégier certaines promesses faites lors de la campagne électorale. Donc, il faut installer la base militaire qui sera combinée avec celle de la MONUSCO. Honorer les accords entre les gouvernements congolais et tous les groupes armés, car les groupes armés sont devenus un business dans notre pays. Donc, si les accords ne sont pas honorés au préalable, les résultats seront toujours les mêmes et la paix aura un problème sérieux de revenir à l'est du pays, particulièrement dans toutes les zones.
Didier Biteki, est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse de Magene Jules qui nous appelle depuis Bukavu au sud Kivu?
Oui. D'une part, je pourrais marier son idée parce que elle rencontre effectivement les préoccupations de l'ensemble de ceux qui ont pris les armes au nord et au sud Kivu et a conclu un accord avec le gouvernement de Kinshasa. Ça, il faut reconnaître parce que c'est aussi une des sources de l'insécurité ou de l'instabilité à l'est. Mais d'autre part, je condamne fermement encore le propos du ministre et porte-parole du gouvernement. Je les condamne avec fermeté.
Merci. Est-ce qu'on peut évoluer, Didier Biteki? C'est vrai qu'on a déjà proposé plusieurs pistes de solutions pour sortir de cette situation. Est-ce que vous pensez que il faudrait ajouter d'autres pistes de solutions ou il faudrait renforcer les pistes déjà proposées auparavant pour sortir de cette situation?
Toutes les pistes déjà proposées auparavant par les uns et les autres n'ont pas produit de solutions. Il faut rénover. Et quand il faut rénover le concept de responsabiliser la population d'une certaine collaboration ou cohabitation avec les groupes armés ne rencontre pas une des solutions au problème. Vous ne pouvez pas demander à la population de se désolidariser de quelqu'un qui est là, qui est armé, au moment où celui qui devait le protéger est absent. C'est impossible. Il faut laisser la population tranquille. La population est comme, je ne sais pas comment est-ce que je pourrais le dire, mais parce que quand il y a une force étrangère qui arrive, ou une force subversive, la population n'a pas de moyens de défense. Elle ne peut que se soumettre à celui qui s'impose. La population n'a aucune responsabilité dans tout ceci. Ceux qui ont des responsabilités sont les autorités administratives et politiques. Parce que ce qu'ils font, c'est lorsqu'ils ont eux-mêmes, ils sont eux-mêmes à la base des conflits, de pouvoir coutumier, de conflits, de pouvoir administratif, de problèmes fonciers, ce sont ces autorités-là, quand elles échouent à leur mission régalienne, que cela révolte certains jeunes et que chacun, parce que le pays n'ayant pas un système de défense efficace, ça ramène à ce que les gens prennent les armes pour s'imposer sur les autres. Qu'est-ce que la population a à faire dans tout ça? Moi, je pense que il faut en amont trouver des solutions politiques et administratives au problème de l'insécurité à l'est, mais en aval aussi, réformer le système de sécurité tout en utilisant un moyen efficace devant aboutir à démanteler les forces et groupes armés étrangers et nationaux et ainsi s'imposer sur le terrain pour assurer l'intégrité, la sécurité de l'intégrité du territoire national.
Merci.
Mais tant qu'on cherchera l'affaire, le dossier ailleurs, tout en se faisant un résultat ou peut-être un mérite d'autosatisfaction dans les discours et mentir au peuple que réellement les choses vont bien, pourtant ça ne va pas, cela ne va pas aider et ce problème risque de perdurer jusqu'à ce qu'on acceptera un jour qu'on se remette en cause en tant que responsable et gestionnaire de la chose publique, cela finira par amener une solution. Mais tant que ces autorités continuent à déclarer des choses qu'elles ne sont pas en mesure de réaliser et qu'elles n'ont pas encore fait, tout en couvrant, en occultant la vérité, en réalité, nous vivrons ce cycle infernal et la suite, c'est que c'est la population qui en souffre. Moi, je ne tolère pas, je n'accepte pas et je ne vais pas entendre qu'un jour il y a encore des morts après avoir suivi ce discours du porte-parole du gouvernement provincial qui déclare qu'il n'y a plus de codeco, ils sont dispersés, maintenant c'est un ratissage. Il ne faudra pas que demain on nous dise qu'un administrateur est mort, qu'un civil a été tué par le Codeco. C'est que c'est lui alors qui instrumentalise ces miliciens-là et il doit en subir. Sinon, il faut dire la vérité à l'autorité pour lui permettre de tirer les conséquences et de prendre la bonne décision. Sinon, ces genres de déclarations-là sont de nature à pouvoir distraire l'autorité.
Merci Didier Biteki. Nous sommes à la fin de l'émission. On va considérer cela comme votre conclusion. Janvier Egoudra, porte-parole du gouvernement provincial de l'Ituri. Il y a des propositions de solutions faites par des auditeurs. C'est le cas de Josué Kakoulé, depuis Butembo Nord Kivu, qui dit ceci. Je propose qu'il soit organisé un dialogue social, qu'on prenne le temps d'écouter la population, les populations qui vivent ces atrocités et cerner le vrai problème. Ainsi, on saura apporter la solution adéquate à la hauteur du problème. Joanie Nabusike, depuis Goma au Nord Kivu, propose que les fils et filles de l'Ituri se mettent ensemble, qu'on organise un dialogue communautaire pour mettre fin aux différends qui les divisent, de mettre de côté leurs intérêts pour la paix dans l'Ituri, aux autorités politico-administratives de respecter tous les accords issus du dialogue et les matérialiser pour une paix durable. Monsieur le porte-parole, qu'est-ce que vous en pensez et puis vous allez conclure?
Ils n'ont pas tort, merci madame, ils n'ont pas tort d'insister sur l'approche du dialogue. Et effectivement, c'est sur ces leviers-là que le gouvernement entend appuyer. Et nous avons des résultats qui sont extraordinaires, mais de l'autre, il faut reconnaître que les différents assauts de notre armée, et ici je voudrais profiter pour rectifier ce que M. Didier vient encore d'insinuer, il n'est pas dit nulle part dans notre propos que Codeco avait disparu complètement de l'Ituri. L'armée mène des actions ciblées et cela fait que ces assaillants, ils sont dispersés. Quand ils sont dispersés, ça leur donne le couloir de mener des actions isolées. Et ça devient très complexe à contrôler. Voilà pourquoi nous insistons, nous comme gouvernement provincial, nous connaissons que le gouvernement de la République ne peut pas être débordé de cette question de la sécurisation de la province de l'Ituri. Je suis très content que l'honorable Aoussé, qui a même fait une lettre ouverte au ministre des Défenses, dont nous attendons les dénouements dans les jours à venir, va continuer à appuyer avec ses pairs qui sont au niveau de l'Assemblée nationale pour que ceux qui sont responsables de la sécurisation des populations et de leurs biens au niveau du pouvoir central puissent se mettre dans le sens de la responsabilisation de leur action politique pour que l'Ituri puisse être mise en paix.
Mais la question rapidement, votre conclusion, monsieur le porte-parole, on n'a plus beaucoup de temps.
En conclusion, nous voulons, au nom encore du gouvernement provincial, rassurer la population que la situation ne va pas perdurer. L'insécurité en Ituri ne va jamais demeurer éternelle. Que la population continue à faire confiance à l'armée républicaine et à dénoncer tout cas suspect afin que l'armée puisse disposer des informations en temps réel pour nous offrir en contrepartie la sécurité. Et
merci.
Le dialogue doit être le fondement de tout ce que nous allons faire afin que, après avoir gagné les challenges militaires, que nous soyons capables de nous regarder dans les yeux et nous accepter mutuellement comme les fils et filles d'une même nation.
Merci, monsieur le porte-parole de l'Ituri. Jackson Aoussé, votre conclusion en 30 secondes.
Un problème généralisé, il faut une solution globale. La solution au problème de la sécurité en Ituri reste militaire et communautaire. Et la solution militaire, nous responsabilisons le gouvernement central. Ils doivent prendre au bras le corps les opérations militaires en Ituri, venir faire l'évaluation. Et sur le plan communautaire, je demande au gouverneur d'organiser les tables rondes dans chaque territoire pour que nous arrivions à cerner le vrai problème et, n'est-ce pas, à proposer des solutions idoines.
Dialogue entre Congolais, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à la préparer, à préparer cette émission. Guy Maté, Dona Madimba, Axel Gonjo. Merci à Polydor Basunga qui était à la mise en onde. Présentation et coordination, Kéline Goûté. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet www.radioocapi.net. Prenez soin de vous et bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.